Il y a 15 jours, notre frère Paul nous a parlé de Thomas. Oui. Je cherchais aussi moi. T'as cassé pas, je perds aussi la tête. Mais c'est marqué de toute façon, donc moi, je n'aurai pas de problème. Notre frère nous a parlé de Thomas et sa prédication, c'était le doute de Thomas. Et loin de là de contredire ce qu'il a dit, son message m'en inspirait un autre, que j'ai intitulé « La foi de Thomas ». Alors, avant de développer ces 7 points, voilà ce que notre frère nous a dit. Et je cite « Le récit du doute de Thomas ne nous est pas donné pour que nous doutions, mais pour nous aider à ne pas douter. Toute la parole de Dieu insiste sur l'importance de la foi. » Et il cite Hébreux 11, 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Il cite Galates 3, 5. Ce que je vous propose n'est pas une opposition à ce qu'il a dit, évidemment, mais un autre volet de la vie de Thomas qui est sa foi. Et je vous propose de lire Jean 11, les 16 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures du jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jusqu'ici, le texte que je vous propose de partager. Père, encore une fois, nous voulons nous remettre devant ce texte. Et merci pour cette parole, cette lumière donnée aux hommes, en que nous puissions vraiment, qu'elle puisse toucher notre cœur à saluer. Plus que encore, elle l'a fait jusque maintenant. Que nous puissions repartir d'ici autrement que nous sommes arrivés, moi le premier. Seigneur, merci parce que tu es bon et que tu vas encore nous nourrir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Oh, on a lu un grand texte pour juste le dernier verset. Mais c'était pour vraiment se mettre dans le contexte. Qui ne connaît pas, et n'a jamais entendu cette expression, « Moi, je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Ça, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. J'allais dire même le plus grand des athées connaît ce texte, quoi. Généralement, c'est la réponse que l'on reçoit lorsqu'on essaie d'aborder quelqu'un et de dialoguer de la foi avec quelqu'un, avec des personnes qui ne croient pas, et qui disent « Oh, moi, je ne crois que ce que je vois. » Ça, c'est clair. Alors, c'est parfois difficile d'introduire, mais pourtant, c'est quand même Thomas qui est un des premiers disciples à être cité. Et il a été choisi par Jésus. Bref, Thomas est quand même l'un des disciples de Jésus et qu'il nomma apôtre. Je vous lis juste Luc 6, 13-16, quand parut le jour, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alors Simon, Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Jude, fils de Judas, Judas Iscariot, et Thomas. Voilà un peu ce qui a été dit. Mais je fais quand même un petit arrêt. Est-ce qu'on sait la différence entre un disciple et un apôtre ? Peut-être le coup de se le rappeler. Le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître. Comme a dit Daniel, pas moi, hein, le maître. Donc c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître. L'apôtre, lui, reçoit la mission de diffuser l'enseignement. C'est davantage un messager, un délégué, un missionnaire, c'est-à-dire une personne munie de l'autorité de quelqu'un qui l'envoie. N'est ici apôtre que Jésus, que les 12 que Jésus a choisis. Et pour le remplacement de Judas, j'ai déjà cité aussi ça aussi, qui abandonne la fonction d'apôtre, il a eu une condition supplémentaire, parce qu'il n'est pas apôtre qui veut bien l'être. Dans Actes 1, 21-22, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. L'apôtre doit être témoin de la résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tout, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, qu'il soit apôtre, que Judas a abandonné pour aller en celui, etc. » Je ferme la parenthèse. Voilà un peu la différence entre disciple et apôtre. Donc Thomas est indéniablement disciple et apôtre que Jésus a choisi. Il s'est pas fait lui-même disciple, bien que ça, on peut le faire, on peut suivre l'enseignement, mais il ne s'est pas fait apôtre. Jésus l'a choisi. Il est d'ailleurs un des premiers cités dans les quatre listes du Nouveau Testament, vous savez, quatre listes où on explique tous les disciples, et il est un des premiers disciples cités. Bon, il y a trois listes dans les évangiles et une dans les actes, et outre quand même l'expression que Thomas ne croit que ce qu'il voit, il est quand même connu aussi pour une formidable confession que tout le monde connaît. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quel formidable témoignage. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais est-ce que ce Thomas est-il vraiment bien connu? Parce qu'on connaît ces expressions, mais est-ce qu'il est lui-même connu? Eh bien, non. Il est quasi inconnu. Et en ce qui concerne ses origines et sa situation, on ne sait rien. Seul l'évangile de Jean nous donne cette précision, comme on l'a vu. Thomas, appelé Didyme. Quand on est jeune, on rigole de ça, il s'appelle Didyme. Alors déjà que son nom Thomas est un nom araméen, Théoma, qui veut dire jumeau, bizarre, mais voilà, jumeau, l'évangéliste lui attribue aussi Didyme, qui en grec veut aussi dire jumeau. Allez, essayez de comprendre ça. Il n'y a pas d'identité, en fait. Un petit peu comme Bartimée, comme j'ai dit la semaine dernière, que nous avons lu, est désigné comme le fils de Timée, ben, c'est le fils de l'autre. Et ici, c'est le frère de l'autre, l'autre jumeau. Thomas, c'est le frère de l'autre qui est né le même jour, qui a né la même mère et qui a le même père. Mais c'est juste le frère de l'autre. Mais quand même, de plus, un certain Eusèbe de Césarée, un historien du IVe siècle, il cite un document primitif qui présente ce disciple comme Judas, appelé Thomas. Il nous amène à comprendre que Thomas n'est pas son premier nom, c'est un surnom qui le différencie de l'autre Judas. Au moins, il a une petite identité. Mais Thomas, le jumeau du jumeau, pas d'identité directe, inconnu, un petit qu'on ne connaît pas. Et pourtant, Jésus l'a choisi. Même sans identité. Jésus, il ne choisit pas des gens avec un gros nom. Deux, petit deux, non. Il m'appelle de Cardon, mais non. Il ne choisit pas ce genre de personne. Il choisit des gens comme tout le monde. Je vais dire des petites gens, mais non. Pour lui, il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de grandes gens. Mais il choisit Thomas, inconnu, totalement inconnu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi s'arrêter autant sur le sujet ? Ben d'abord parce que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Et tout, et le moindre détail, est important. Vous voyez, ne fût-ce que 10 lignes, c'est important. Alors Thomas est jumeau, ben, il devrait quand même être heureux, parce que dans la Bible, il n'y a pas que lui. Vous en connaissez d'autres, certainement. Souvenons-nous du cas de Tamar, moins bien connu, mais quand on voit l'histoire, elle change son vêtement pour passer pour une prostituée, parce que son mari est décédé, et alors pour aller donner une descendance, déguisée, coucher avec son beau-père, et une descendance va arriver, et ce sera des jumeaux. Et vous vous certainement souvenez de ce que vous avez lu, qu'il y en a un qui a passé la main, hop, on a lié un cordon rouge, hop, il est rentré. Donc on sait que c'est lui le premier jumeau. C'est juste, peut-être qu'on fera une prédication un de ces jours sur un ruban rouge, mais voilà, un couple de jumeaux, et puis un autre couple de jumeaux, qui est sans doute le plus connu, Jacob, dont le nom sera changé en Israël, qui n'est autre le frère que d'Ésaü. Vous allez me dire, tous les jumeaux sont des personnes comme les autres. Je ne sais pas si vous en connaissez. Les vrais se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et je me souviens qu'il y a souvent une complicité unique entre eux. Ils portent parfois les mêmes vêtements, ils peuvent même vivre ensemble sans se prendre la tête, apparemment. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment que je vis tous les jours. Mais je me souviens des frères Maas, peut-être que vous avez connu, les chanteurs qui sont devenus pasteurs, rien ne les différenciait. Rien. Sauf quand ils riaient, il en avait un qui allait dedans cassé. Donc on savait qu'il y avait Maas 1 et Maas 2, mais sinon, rien, rien. Pourtant, des jumeaux sont quand même deux personnes. Ils sont quand même différents. À certains moments, ils ne pensent pas la même chose, c'est pas possible, ils n'ont pas le même cerveau. Ils ont des différences. Ils ont peut-être quand même leur identité. C'est peut-être parfois un jeu. J'ai entendu qu'ils se faisaient passer l'un pour l'autre, ils allaient passer l'examen, des choses comme ça. Mais à certains moments, c'est peut-être pas très confortable de les confondre. Ils n'ont pas directement d'identité. Mais alors, pour Thomas, l'auteur des récits de ses actes ne veut pas qu'on le confonde. Il ne veut pas qu'on l'échange avec son frère. On ne veut pas qu'on le compare avec son frère. Il dit c'est quand même le frère de l'autre. C'est Thomas, le jumeau de l'autre jumeau. Peu importe, peut-être que son frère est très connu, on n'en sait rien. Mais il veut que ce soit Thomas qui ait été choisi. Je disais, à propos, on n'a jamais entendu parler de l'autre jumeau, c'est parce qu'il est. Il est peut-être disciple, on ne sait pas, il n'est pas cité. On n'a aucune référence. Ce n'est peut-être pas une référence, comme Ésaü, parce que Ésaü et Jacob, ce n'était pas le temps. Alors, on ne sait pas. Mais Jésus a choisi Thomas, sans son frère, pour qu'il soit, lui, apôtre. C'est lui seul que le Messie a choisi. Le Fils de Dieu voulait proclamer la bonne nouvelle du royaume. Peut-être que son frère était parmi les disciples, mais on n'en sait rien. Alors je pense que c'est important pour un jumeau de savoir que Jésus ne le confond pas avec son frère. Devant le salut, devant la croix, là il peut s'échanger, mais Jésus ne fait pas la différence. Il sait qui il appelle. Le jumeau, la jumelle, est pour Jésus une personne à part entière. Il n'est pas confondu avec son frère. C'est lui ou c'est elle qu'il a choisi. Mais vous allez me dire, qu'en est-il du titre que j'ai donné à cette prédication ? La foi. La foi de Thomas, parce que c'est quand même le sujet qui nous intéresse. Je relis le verset. « Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Mourir avec lui. L'annonce de la mort de Lazare soulève quand même un petit problème. C'est l'ami de Jésus et celui-là, il n'est pas là. Et Jésus prend son temps. Bizarre quand même. Bon, ben, deux jours, il faut quand même y aller. Mais comme on a lu dans le texte, la tête du maître est mise à prix. Les autorités juives voulaient le lapider. Il ne va pas y retourner quand même. Alors il y a une discussion, vous avez vu, entre Jésus et les disciples. Jésus, oh, Lazare, il dort. Les disciples s'y dorment.
Pas de problème.
Il va se réveiller. On n'y va pas. On est tranquille. Jésus dit non, je vais le réveiller. Alors les disciples continuent. Tu vas te faire lapider. Si tu retournes où? Non, on n'y va pas. Tu vas être mis à mort. Jésus, Lazare est mort pour la gloire de Dieu. Et là, ping, Thomas qui dit, alors allons-y. Si c'est pour la gloire de Dieu, allons-y mourir avec lui. C'est quand même cette phrase qui pose une petite interrogation. Dans la pensée de Thomas, c'est aller mourir avec Lazare, ce qui confirmerait le doute de la résurrection et le doute de Thomas. Ou c'est aller mourir avec Jésus. Ce qui nous donne quand même une des plus grandes preuves de la foi exprimée. Allons mourir avec lui. Une phrase, certainement, a dû résonner, comme je viens de le dire, dans les oreilles de Thomas. Après avoir entendu cela, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est ça qui a déclenché. Oh, il y a un autre déclencheur aussi. À cause de vous, c'est Jésus qui dit ça. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Deux choses. Pour la gloire de Dieu, et afin que vous croyiez. Ah, moi je veux croire. Peut-être que je veux croire que je vois, mais je veux voir aussi. Ça, c'est Thomas. Et c'est alors que Thomas s'exprime sur quoi Thomas m'a appelé Didi. Allons-y, afin de mourir avec lui. Insouciance ou foi. Souvenez, la semaine dernière, je parlais de l'insouciance de l'enfance et de la jeunesse. Insouciance ou foi. Thomas a été choisi et veut honorer son maître. Il veut être là. C'est pour la gloire de Dieu et pour augmenter sa foi qu'il faut se rendre au chevet de Lazare. Alors allons-y, même si on doit mourir avec Jésus. On a déjà eu la même réflexion un peu plus tard avec un autre apôtre qui dira la même chose dans des circonstances différentes. Dans Matthieu 26, 36, Pierre lui répondit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et la suite. Et tous les disciples dirent la même chose. Parce qu'on cite souvent Pierre. Mais les autres aussi, ils ont dit la même chose. On est prêts tous à mourir pour toi. On connaît la fin. Je vous ai parlé de ces chants. Certainement que je n'aimais pas chanter. Quand j'étais jeune, j'avais peur de chanter ces chants. J'en ai mis un ici pour après. Mais j'ai peur de chanter. J'avais peur de chanter ces chants. Jusque la mort, c'est notre cri de guerre. Une chorale et notre... On se calme, hein. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir ou vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Quand t'es jeune et que t'as 20 ans, moi, j'ai pas envie. Hein. Alors, quelle insouciance ou quelle foi faut-il avoir? Je pense que Thomas avait les deux. J'appellerais ça l'insouciance de la foi. Thomas, l'incrédule pour certains, qui ne s'arrête qu'à ce qu'il voit. Celui qui ne croit que s'il voit quelque chose. Thomas. Mais dans notre récit, Thomas est déterminé. Il veut aller après son Seigneur, même s'il doit mourir. Je ne sais pas s'il aurait été à la place de Thomas. La vision n'est pas la même que Jésus quand même. Il pense aller vers la mort en retournant à Béthanie, mais Jésus, lui, va vers la vie, va vers la résurrection de son ami. Tout ça pour la gloire de Dieu et pour booster la foi de ses disciples et de ses apôtres. Oh, la volonté de Thomas est louable, hein. Allons mourir avec lui. Allons-y, même si nous mourrons. Peut-être que les autres vont essayer de le raisonner. Quand des ardeurs, Thomas, hein, je veux bien, mais si c'est pour aller mourir, j'ai pas trop envie d'y aller. Alors évidemment, je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Comment aurions-nous réagi ou comment réagirions-nous si on nous envoyait suivre Jésus presque à la mort? J'ai dit presque à la mort, hein. On n'est pas des kamikazes quand même. Nous sommes parfois bien dans notre fauteuil à lire notre Bible tranquillement. Mais comment serions-nous si Jésus nous demandait d'aller prêcher en Indonésie ou évangéliser en Irak ou en Corée du Nord? Je n'ai pas répondu. Personnellement, je me demanderais plutôt moi, d'aller en Suisse ou au Canada ou en Tahiti. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça l'évangélisation, c'est pas ça l'appel de Dieu. C'est pas ça, c'est pas ouvrir un catalogue de voyages et dire je vais là, Seigneur. Là. On suit Jésus, et, même s'il faut mourir. Allons-y pour mourir, mais même si je pense que j'aurais décidé d'obéir, je pense que j'aurais peut-être les mêmes propos que fataliste que Thomas. Allons-y pour mourir, bon ben, Seigneur, tu connais toutes choses. Dieu pourvoira. La pensée de Jésus est autre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, c'est un verset très, très, très connu. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Mais à qui Jésus dit-il cela? Je vous lis. Jean 1, 14, 6 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore notre Thomas qui en veut et qui en veut et qui en veut. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, ne nous révèle pas tout, mais il prépare le chemin. Et il nous dit simplement, toi, suis-moi. Il y a dans la vie de Thomas une détermination et un engagement dont nous devons nous nourrir. Il est un fait, c'est que l'insouciance de la foi, c'est généralement au début de conversion ou au début d'appel. Au début, c'est tout feu, tout flamme. Mais au fur et à mesure que le temps passe, et parfois que les épreuves, il faut parfois voir pour croire. De temps en temps, ça arrive. On se lasse un peu, notre amour se refroidit. Mais cette détermination, il nous faut la retrouver. La détermination et l'engagement sont des notions qui nous feront garder nos valeurs, quelles que soient les époques et les circonstances, quelle que soit notre situation, que nous soyons riches, pauvres, malades ou bien portants, jeunes ou plus âgés, nous devons suivre Jésus, même s'il y a des situations périlleuses. Or, il ne demande pas la même chose à chacun. Il n'a pas demandé aux deux jumeaux, Thomas et son jumeau, la même chose. Ne nous jugeons pas sur les faits et les méthodes employées par les autres. Soyons nous-mêmes en face de nos adversaires. Alors que l'exemple de l'apôtre Thomas nous remontre la loyauté que nous devons avoir suivant l'engagement que nous avons pris de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, parce que lui, il a payé le prix. Lui, il n'a pas lésiné sur la dépense. Alors que le Seigneur vous bénisse et pensez à Thomas autrement que croire pour voir et que voir pour croire. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi. Seigneur, c'est sûr que parfois nous avons tellement envie de te voir, de voir ce qui se passe, de voir quelque chose. Mais tu nous demandes de croire, te croire sur parole, croire ta parole. Oh Seigneur, que nous puissions avoir l'exemple de Thomas, prêt à mourir, sachant que toi, tu ne le veux pas, mais que tu veux simplement que la gloire de Dieu rayonne et que nous puissions être renouvelés dans nos forces et dans notre foi. Qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.